puce à l'oreille.
La puce à l'oreille, l'émission scientifique de Radio Campus Paris.
Tous les mois, le jeudi à 20h.
Jusqu'à 21h.
Tous les mois, le jeudi à 20h. 93.9. La puce à l'oreille.
La puce à l'oreille.
Radio Campus Paris. Campus Paris.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans La Puce à l'oreille, l'émission scientifique de Radio Campus Paris, tous les mois le jeudi à 20h. Depuis l'apparition de la vie il y a environ 3,8 milliards d'années, la vie n'a cessé de se développer, croître et de se diversifier. On estime à 8,7 millions le nombre d'espèces présentes sur la planète, en tout cas celles que l'on connaît, car il y en aurait en fait 10 fois plus qui restent à découvrir. Alors, évidemment, il faut les classer, les comparer, les mettre dans des boîtes, dans des arbres. C'est ce dont on va parler ce soir avec Marie Fissler. Marie Fissler, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous faites une thèse dans l'histoire des sciences et plus particulièrement l'histoire des arbres.
Tout à fait.
Voilà, des arbres de classification. On va y revenir. Durant l'émission, on aura également Hugo. Bonsoir Hugo.
Bonsoir Thibault, bonsoir à tous.
Qui va nous parler aussi d'histoire.
Parce oui, je pense qu'il va falloir faire un petit point, une petite rétrospective justement sur les premières classifications, en Grèce notamment.
Très bien, merci Hugo. On aura également Sylvain qui fera sa première radio ce soir.
Et oui, bonsoir Thibaut, bonsoir à tous.
Et qui va nous parler d'une dent.
Et oui, de paléo-anthropologie.
Super, et bien c'est parti, la puce à l'oreille, ça commence maintenant sur Radio Campus Paris. Alors Marie Fissler, rebonsoir.
Bonsoir.
On a vu, il y a beaucoup d'espèces présentes
fait.
Sur la planète. La question, c'est comment on les classe. Et donc, la question de la classification, en gros, c'est de mettre les animaux dans des boîtes.
Tout à fait, mais on ne va pas les mettre n'importe comment dans des boîtes. En
fait, j'espère.
C'est 8 millions d'espèces, on va les regrouper par leurs points communs, finalement, par ce qu'elles vont avoir. Leur point commun, ça ne va pas être l'endroit où elles vivent, si elles vivent dans l'eau, si elles vivent en Afrique, si elles vivent en Antarctique. Ça ne va pas être non plus par ce qu'elles font, est-ce qu'elles arrivent à gratter la terre, est-ce qu'elles arrivent à voler. Non, ça va être finalement par leurs organes. Est-ce qu'elles ont des poils, est-ce qu'elles ont des plumes, est-ce qu'elles ont des écailles. Et surtout, par ce qu'elles vont avoir d'original par rapport aux autres. Tenez, par exemple, nous sommes des mammifères. Qu'est-ce qu'on va avoir d'original, par exemple, à notre poisson rouge? On va avoir des poils, des cheveux qu'on va avoir sur la tête, ou pas, par exemple. On va avoir des oreilles des deux côtés de notre tête, ce qu'on appelle le pavillon aux oreilles. Aussi, au niveau des os, on va avoir des points communs, nous tous, qui vont être originaux. La mâchoire inférieure, il va y avoir qu'un seul os. Donc finalement, on va regrouper les espèces par ce qu'elles ont d'original par rapport au reste des individus, par rapport aux autres espèces. Et effectivement, on va les mettre dans des boîtes. Mais tout ça, ça va se faire suivant des principes. Premier principe, c'est qu'on ne peut jamais sortir d'une boîte.
Alors, c'est-à-dire, on ne peut pas sortir d'une boîte. On ne peut pas enlever un animal d'une boîte pour le mettre dans une autre boîte. Ça doit
alors
arriver.
Alors ça peut arriver, ça arrive même assez régulièrement. On voit qu'on s'est trompé. Non, par exemple, on va prendre le groupe des animaux qui ont des vertèbres, qu'on appelle les vertébrés. Eh bien, à l'origine, tous ces animaux vivaient dans l'eau. Et on a encore un petit peu gardé leur nom. De temps en temps, on va les appeler des poissons. Les poissons, en fait, c'est des animaux qui ont des vertèbres, mais qui ne vivent pas sur la terre ferme. Eh bien, ça, en biologie, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit
et
de faire une boîte.
Pourquoi on n'a pas le droit? On n'a pas le droit d'appeler les poissons les poissons.
Alors, parce que les poissons, c'est juste une petite partie d'une boîte. Tenez, par exemple, je vais prendre trois exemples de poissons. Deux qui sont très connus, et puis un qui est un petit peu moins. Celui qui n'est pas très connu, on l'appelle le sélacanthe. Alors, le sélacanthe, c'est un gros animal. On va le trouver au large des Comores, au large de l'Afrique du Sud. Il va mesurer 2-3 mètres de long. C'est cet animal-là, en fait, si on le voit, on dit c'est un gros poisson avec une forme bizarre. Mais en fait, ce sélacanthe, si on regarde bien, il va avoir deux nageoires devant, deux grosses nageoires derrière, et bien les os de ces nageoires, c'est exactement les mêmes devant que ceux de nos épaules, et derrière que ceux de nos fémurs, de nos jambes. Alors que si on prend un deuxième poisson, qu'on connaît beaucoup mieux, la carpe, ou poisson rouge, eh bien, il va pas avoir ces os-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sélacanthe, il a plus de points communs avec nous qu'avec une carpe. Alors si on cherche bien, il a encore beaucoup plus de points communs avec nous qu'avec une carpe. Au bout de ses nageoires, par exemple, il va avoir des petits os articulés qui peuvent bouger séparément des uns des autres. Et nous aussi, on les appelle des doigts. Ça, la carpe non plus, elle a pas ça. Par contre, la carpe, elle va avoir plus de points communs avec le sélacanthe et nous, qu'avec un requin, qu'est-ce qu'il va avoir comme point commun ? Eh bien, les os. Quand on se prend une arête de carpe dans la bouche, on a mal, bah, c'est parce que c'est un os. Alors que le requin, lui, il n'a pas d'os, il va avoir du cartilage, un cartilage très spécial. Donc finalement, si on fait un groupe de poissons, si on regroupe ensemble le requin, la carpe et le sélacanthe, eh bien, on ne dit pas ce qu'ils vont avoir de particulier et on ne va pas faire nos boîtes correctement.
Mais alors, où est-ce qu'on met la limite entre les espèces ? Où commence une espèce par rapport à une autre ?
Alors,
où est la frontière de la boîte ?
Mais justement, ça va être la grande question qu'on va faire dans nos classifications, c'est est-ce qu'on a un point commun ou est-ce qu'on ne l'a pas ? Par exemple, la frontière mammifère, c'est j'allaite mes petits, j'ai des poils, j'ai des pavillons aux oreilles, et puis j'ai un seul os à la mâchoire inférieure. Alors, par exemple, l'ornithorynque va avoir ces quatre points-là, donc il va bien faire partie des mammifères. Pourtant, notre ornithorynque, alors, c'est un animal très sympathique qu'on va trouver en Australie, qui va allaiter ses petits.
On peut le redécrire, justement, pour le plaisir.
Ça ressemble un petit peu à une marmotte avec un bec de canard. C'est très aplati et surtout, ça pond des œufs et ça allaite ses petits. Ça va vivre dans les cours d'eau, ça va creuser des trous. Mais c'est quand même un mammifère, simplement. Il n'a pas suivi... On a tous un ancêtre commun avec l'ornithorynque, nous mammifères, notre chat, notre chien. Mais ensuite, eh bien, les enfants de cet ancêtre commun n'ont pas forcément eu le même destin évolutif, le même chemin. L'ornithorynque, lui, il a eu des choses que nous, on n'a pas. Par exemple, il est venimeux.
Si on s'est piqué l'ornithorynque est venimeux.
Ah oui, il a des petits aiguillons venimeux derrière ses pattes. Wow. C'est même assez violent. On peut avoir une sacrée fièvre en se faisant piquer par un ornithorynque. Nous, on n'a pas ça, mais par contre, on garde nos bébés dans notre ventre. Donc c'est comme ça qu'on va faire nos boîtes finalement, c'est par un ensemble de points communs. Plus on a de points communs, plus la boîte est stable. On va faire la boîte animaux à quatre pattes, eh bien, par le fait d'avoir quatre membres, que ce soit les ailes des oiseaux, que ce soit les nageoires avant des dauphins, que ce soit pour nous nos bras. On va avoir aussi plein d'autres points communs au niveau de nos poumons, au niveau de notre cœur. On va faire une boîte un petit peu plus grande, les animaux qui ont des os, donc on va trouver nous-mêmes mammifères, on va trouver les oiseaux, les serpents, les grenouilles, les carpes, les sélacanthes, etc. Donc finalement, ces boîtes, on va les faire par des ensembles de points communs. Alors, bah, parfois, ces points communs peuvent être ambigus. Tenez par exemple la chauve-souris. La chauve-souris, pendant des siècles, on s'est demandé si c'était un oiseau ou un mammifère, parce qu'elle a des ailes, et elle a des poils, et elle donne du lait à ses petits. Alors, on a un principe aujourd'hui en biologie qu'on appelle le principe de parcimonie. Alors, le principe de parcimonie, on l'applique malgré nous sans le savoir. Je pars de chez moi, je rentre le soir et je ne trouve plus mes clés. Le principe de parcimonie, c'est j'ai mis les clés quelque part dans mon sac et je ne sais pas où. Je ne les trouve pas. La deuxième chose, la solution la plus probable, c'est je les ai laissées chez moi ou au travail. Mais ça ne va certainement pas être. Eh bien, il y a un extraterrestre qui est venu, qui m'a anesthésié, qui m'a pris mes clés, qui les a embarqués chez lui, et c'est pour ça que je ne les trouve plus. En fait, c'est quelque chose qu'on applique chez nous. Un policier qui fait son enquête, qui voit un cadavre avec un pistolet à côté de lui, il va conclure à un homicide ou à un suicide, mais il ne va certainement pas non plus lui croire que la personne nettoyait son pistolet et que le coup est parti tout seul.
Ou l'extraterrestre.
Effectivement.
Autre chose, oui.
Donc la parcimonie, ça va être ça. Alors, on va voir pour notre chauve-souris, finalement, combien de points communs elle va avoir avec les autres espèces. On peut commencer avec les mammifères. Combien de points communs elle a avec les mammifères ? Eh bien, beaucoup. Elle va avoir les poils, elle va avoir les oreilles qui dépassent, un seul os à la mâchoire du bas, plein de points communs que je ne vous détaille pas au niveau des os avec les autres mammifères. Elle va avoir vraiment plein de choses. Elle va allaiter ses petits, elle va garder ses petits dans son ventre. Donc, généralement, quand j'explique ça, je trouve une petite vingtaine de points communs avec les mammifères. Et avec les oiseaux, elle va avoir un point commun, elle a des ailes. Donc il est plus parcimonieux de dire que la chauve-souris est un mammifère qui a eu des ailes pendant l'évolution que de dire que c'est un oiseau qui a acquis indépendamment tous ses points communs avec les mammifères.
Donc, alors, c'est intéressant parce que là, j'imagine qu'il y a eu plein d'erreurs dans la façon dont on a classifié les animaux et les boîtes. Alors là, vous avez évoqué un terme qui est celui d'ancêtre commun. Qu'est-ce que ça représente exactement ? C'est théorique ? C'est hypothétique ?
Alors, l'ancêtre commun, en fait, on sait qu'il existait. C'est une notion un petit peu bizarre. L'ancêtre commun, en fait, c'est lui qui fait la boîte. Si on est tous des mammifères, si on est tous dans la grande boîte mammifère...
C'est-à-dire qu'on a un ancêtre.
A un ancêtre qu'on pourrait même appeler mammifère, monsieur mammifère ou madame mammifère. La seule chose, c'est que cet ancêtre, à l'époque, il vivait dans un monde où il y avait peut-être déjà 8 millions d'espèces différentes. Il est mort, et peut-être qu'il s'est fossilisé, peut-être qu'il ne s'est pas fossilisé, mais toujours est-il qu'on ne le retrouvera jamais. C'est sûr que dans tous les fossiles qu'on peut retrouver... on ne pourra jamais dire, lui, c'est notre ancêtre, c'est monsieur mammifère. Parce que c'est peut-être son frère, c'est peut-être son cousin, c'est peut-être son grand-père ou une espèce à côté. Par contre, on sait qu'il existait. Et on peut faire un petit peu comme notre policier qui mène son enquête, on peut dresser son portrait robot. Finalement, qu'est-ce qu'il aura ce mammifère, ce monsieur mammifère ? Eh bien, il aura l'ensemble des points communs que nous avons, nous tous mammifères, et aucun autre. Ce monsieur mammifère, on sait qu'il allaitait ses petits, qu'il avait des poils, qu'il avait les mêmes os que nous, finalement. Mmh.
C'est-à-dire qu'on peut le décrire, on peut décrire la façon, on peut décrire ses caractéristiques.
Tout à fait.
Qu'il aurait.
Tout à fait.
S'il existait.
S'il est, voilà, s'il existait, plutôt si on le retrouvait.
Si on le retrouvait.
On sait qu'il ressemblerait à ça. Bon, ensuite, on sait qu'on a une chance sur 1 milliard de milliards de le retrouver. Je pense qu'il est beaucoup plus probable de gagner 10 fois au loto que de retrouver Monsieur Mammifère dans un gisement fossile. Oui. Mais voilà, par contre, on peut dire à quoi il ressemblait.
Très bien. Alors, vous évoquiez aussi un autre point, c'était le sélacanthe.
Tout à fait.
Ce fameux poisson, donc, qu'on ne peut pas appeler un poisson.
Voilà.
Là, ça, c'était la grande leçon de ce début d'émission. On dit souvent que c'est un fossile vivant. Et ce terme, bien sûr, on peut le dire aussi ce soir, n'a pas vraiment de sens scientifique.
Tout à fait. En fait, fossile vivant, bah déjà, ça veut dire quoi ? Ça voudrait dire que c'est un fossile, donc un animal qui est mort, qui a une forme de pierre, qui est tout dur, et puis bah, qui est vivant quand même. Donc c'est ouais. quelque chose, déjà, moi je trouve ça un peu paradoxal.
Conceptuellement, c'est difficile. Oui.
C'est pas évident. Moi, ça me ferait un petit peu peur. Ouais. Et alors, en fait, qu'est-ce qu'on dit quand on dit que le sélacanthe est un fossile vivant ? On dit qu'il n'a pas changé depuis 300-400 millions d'années.
Alors, est-ce que c'est vrai, ça ? Est-ce qu'on peut dire que des animaux, depuis des millions d'années, n'ont pas évolué d'un iota ?
En fait, ça, c'est absolument impossible. Mmh. Qu'est-ce que c'est l'évolution ? Bien, c'est simplement que quand on a des bébés... Le bébé ressemble à son papa et à sa maman. Mais il a aussi des caractéristiques bah, qu'il ne tient ni de son papa ni de sa maman. Finalement, quand le papa et la maman vont faire leur bébé, il va y avoir un petit peu de gène de l'un, un petit peu de gène de l'autre. Puis il va y avoir des erreurs de copie. Mmh. Et ces erreurs de copie, bah, c'est ça l'évolution. Alors sur une génération, sur 100 générations, ça ne va pas se voir. Finalement, nous, humains modernes, on ressemble tout à fait aux humains qui vivaient il y a 2000 ans, 5000 ans. Par contre, au bout de 10 000, 20 000, 30 000 générations... Bah, ça va commencer à se voir. Et en fait, c'est juste ça, l'évolution. Mais notre pauvre sélacanthe, eh bien, lui aussi, il a eu des bébés. Et donc, il s'est transformé lui aussi. Donc, on ne peut pas dire qu'il ressemble en tout point à ses ancêtres. Par contre, on peut dire qu'il a des organes que ses ancêtres avaient aussi. Mais c'est valable aussi pour nous, mammifères ou animaux à quatre pattes.
Très bien. On continue jusqu'à 21h dans La Puce à l'Oreille sur Radio Campus Paris. We'll be right back. C'était Crystal Castles de Black Panther.
Vous pouvez nous réécouter en podcast sur notre site radiocampus.org/la puce à l'oreille.
L'heure maintenant d'écouter un des fleurons de l'évolution humaine.
Quel honneur.
Hugo, qui va nous raconter un petit peu un voyage dans le temps.
Voilà, parce qu'on a beaucoup parlé donc de manière de classifier les êtres vivants, on a parlé des boîtes, mais je pense qu'il est important de revenir un petit peu dans l'histoire et de savoir comment les hommes ont classé le vivant depuis la nuit des temps. Alors nous sommes tous autour de cette table passés par le stade nourrisson au début de votre vie, souvenez-vous, enfin essayez du moins. Comme tout le monde, nous avons découvert le monde qui nous entoure en observant, en comparant, en expérimentant par une méthode toute simple: mettre l'objet d'intérêt dans la bouche et voir si c'est agréable ou non. Voilà, avant même de marcher, tu as fait ça aussi, Thibaut.
Très utilisé.
Mais même pour certains adultes encore. Voilà, donc avant même de marcher, de parler, on a commencé à classer. D'un côté, on a mis les choses qui ont bon goût, et de l'autre, celles qu'on ne retouchera pas. Cette attitude primitive nous montre qu'il est sûrement ancré dans la nature humaine de classer, de ranger, d'ordonner ce qui nous entoure par des critères un peu subjectifs. Pas étonnant donc que les premières traces de classification du monde vivant remontent à très très loin dans l'histoire. Dans la Grèce antique, berceau très connu de la philosophie et des sciences, celui qui a véritablement ouvert la voie, c'est le fameux Aristote. Donc comme tu le sais Thibaut, personne à laquelle je suis assez attaché.
Ah oui, à chaque émission tu nous en parles.
À chaque fois, il a fait donc le sujet d'une de mes premières, la première chronique d'ailleurs. Donc Aristote, personnage très important qui a véritablement révolutionné les sciences du vivant. Alors si son maître Platon, à l'époque plus philosophe lui que scientifique, avait déjà esquissé une organisation un peu idéologique du vivant, Aristote lui révolutionne, comme je viens de le dire, toutes les sciences du vivant. Cuvier, le célèbre paléontologue du 19e siècle, dira en son temps d'Aristote: il a établi une classification zoologique qui n'a laissé que bien peu de choses à faire aux siècles qui sont venus après lui. Ces grandes divisions et subdivisions du règne animal sont étonnantes de précision et ont presque toutes résisté aux acquisitions postérieures de la science. Donc, bel éloge de Cuvier. Donc, qu'a-t-il fait de si novateur, notre cher Aristote, à son époque ? Déjà, il observe beaucoup, ce qui, à l'époque, n'était pas si commun, et repère des points communs chez tous les animaux. Il remarque qu'ils possèdent tous une partie pour prendre la nourriture, donc plus ou moins la bouche, et une autre pour la rejeter. Voilà, je ne vous fais pas de dessin. Aristote range ensuite les êtres vivants qu'il connaît en les regroupant par propriété. L'endroit où ils vivent, les organes qu'ils portent, etc., etc. Par exemple, il rassemble les animaux n'ayant pas de sang d'un côté et les animaux qui ont du sang de l'autre. Parmi ces derniers, il distingue aussi ceux qui vivent dans l'eau et ceux qui vivent sur terre. Il décrit comme ça 495 espèces, dont 60 mammifères et 160 oiseaux. Bref, sa méthode de classification par observation et ses résultats traverseront les époques jusqu'à la Renaissance. Voilà. Donc au Moyen-Âge, sera enseigné notamment les travaux d'Aristote, qui sera érigé en maître absolu. Mais une autre particularité d'Aristote et des naturalistes de l'époque, c'est son échelle des êtres. Sa classification est en effet très hiérarchisée. Son échelle part du plus simple des êtres, des mollusques par exemple, au stade ultime de perfection qui est bien sûr l'homme. Et moi, tu parlais...
On ne dira jamais assez sur un corpus pareil.
Alors on a tendance, après la Grèce antique, de faire carrément un bond géant jusqu'à la Renaissance sans vraiment se préoccuper des époques intermédiaires. Là, le monde romain, bien que d'une manière générale moins porté sur les sciences, apportera quand même sa pierre à l'édifice. Alors au 1er siècle de notre ère, un savant comme Dioscoride classe dans ses ouvrages les plantes suivant leurs vertus thérapeutiques. Donc il classe les plantes aromatiques, alimentaires, médicinales, etc., etc. Au même moment, en Italie, il y a un célèbre naturaliste aussi qui s'appelle Pline l'Ancien, dont on ne peut pas ne pas parler. Vous savez, c'est la personne d'ailleurs qui est mort à Pompéi lors de l'éruption du Vésuve.
C'était pas le seul.
Pauvre homme, mais... voilà. Donc outre sa bravoure, oui, parce qu'en fait, il s'est approché du volcan en éruption pour sauver un de ses amis. Donc c'est quand même respectable. Donc outre sa bravoure, Pline l'Ancien est connu aussi pour avoir rédigé un ouvrage immense qui est l'Histoire naturelle. Ouvrage en 37 volumes. Alors il y a tout dans ce livre, de la géographie, de la botanique, de la médecine, de la minéralogie et bien sûr de la zoologie. Alors, c'est moins un renouveau méthodologique qu'une véritable encyclopédie qui nous propose du savoir gréco-romain. C'est une référence immense et qui sera utilisée bien après, surtout au Moyen-Âge. Car en fait, le naturaliste reprend en partie la classification d'Aristote et n'y apporte en fait pas grand-chose, sinon peut-être des liens entre différents groupes d'animaux. Il place par exemple l'autruche entre les mammifères et les oiseaux et forme différents groupes d'animaux, les animaux aquatiques, terrestres, les mammifères, etc., etc. Ces groupes ne sont pas fermés et l'on peut passer, donc, comme je disais, de l'un à l'autre. Voilà, alors, donc, on vient de parler de Pline l'Ancien. Ensuite, les 1500 à peu près années qui vont le séparer de la Renaissance va voir surtout l'enseignement de Aristote, dont j'arrête pas de parler et je vous promets que c'est la dernière fois. Donc, c'est-à-dire Aristote, une hiérarchisation.
Tu peux revenir quand tu veux pour parler d'Aristote,
hein. Peut-être demain d'ailleurs, dans une autre émission. Donc voilà, donc Aristote, une hiérarchisation des êtres vivants, c'est ce qu'il caractérise, avec les êtres inférieurs, les 100 grades de la nature, comme il les appelait. Et au sommet, l'homme, et au-dessus encore, le divin. Donc ce qui unit les classifications d'Aristote, de Cioride, de Pline, dont je viens de parler, avant la Renaissance, sont les caractères donc, très subjectifs, finalistes, c'est-à-dire la nature suit le dessein de perfection d'un créateur, et anthropocentrés. Alors je tiens à dire que toutes ces étapes sont très bien précisées et décrites sur un site internet qui est le site du musée du Havre, voilà, dont Marie Fissler a rédigé quelques articles. Ouais, donc c'est très bien fait et on peut voir justement toute l'évolution des classifications de la Grèce antique jusqu'à Darwin, même aujourd'hui. Voilà.
Bah, donc, merci beaucoup Hugo. Merci Aristote.
Merci Aristote surtout. Je pense qu'on faudra faire une statue en marbre à son effigie
Celle que t'achèteras, tu nous l'amèneras.
Non mais ça, faut pas le dire. Par contre, j'assume pas trop. Donc voilà. Bon, tout ça pour venir. Donc on arrive à la Renaissance.
Voilà.
Et là, il va se passer quelque chose qui va révolutionner un petit peu les sciences du vivant. C'est l'apparition de ces fameux arbres du vivant. Donc vous êtes une spécialiste, Marie Fissler, est-ce que vous pouvez nous parler de ces premiers arbres, à quoi ils servaient et quand est-ce qu'ils sont apparus ?
Oui, tout à fait. Alors, les premiers arbres, en fait, ils vont servir avant tout à classer des plantes. Pourquoi ? Parce que faut oublier qu'on a une pression religieuse qui est très très forte sur la classification des espèces. Et quand on classe des animaux, il est important de dire quand même que l'homme est la créature divine par excellence et qu'il est quand même plus divin qu'une souris ou qu'une fourmi. Par contre, quand on classe une orchidée, une fougère ou un champignon de Paris, on s'intéresse pas vraiment à savoir qui est plus parfait que qui. Donc on peut abandonner un petit peu l'échelle des êtres et faire des arbres. Et on va voir un premier groupe de classificateurs par arbre qui vont faire alors, ce qu'on appelle en des termes barbares des clés de détermination. En fait, c'est quelque chose de très très simple. Vous ouvrez votre placard et vous voyez un gros insecte qui est là, vous l'écrasez puis vous cherchez à savoir ce que c'est. Alors vous allez chercher une petite clé de détermination qui ressemble à...
Et pourquoi on l'écrase d'un sexe ? J'ai pas compris là.
Moi en général, invention de mythe alimentaire, je me suis pas posé de questions. Mais on peut aussi choisir d'en faire un petit insecte de compagnie.
D'accord.
Mais on essaye aussi de savoir ce que c'est.
D'accord.
Donc on va voir, est-ce qu'il a 8 pattes ou 6 pattes ? S'il a 8 pattes, c'est pas un insecte, c'est une araignée. S'il a 6 pattes, c'est bien un insecte. Ensuite, est-ce qu'il a des ailes ? Oui, allez à la page 3. Non, allez à la page 6. S'il a des ailes, est-ce que les ailes sont blanches ? Oui, allez à la page 9, etc., etc. Donc finalement, ça va vous donner tout un ensemble de décisions. Et puis à la fin, on arrive à savoir idéalement ce que c'est que notre insecte, ma petite mythe alimentaire, un cafard ou un gentil petit papillon. Donc à la Renaissance, on va avoir des clés comme ça, qui à la fois vont permettre de déterminer la plante qu'on étudie, ce qui est quand même pratique quand on est médecin ou herboriste. On cueille une fleur et on arrive à trouver ce que c'est. Et puis ça peut permettre aussi de les classer, de les inventorier.
Donc ces clés, c'est des caractéristiques observables,
exactement.
Façon, on dirait, macroscopique.
Tout à fait. Et idéalement, on commence par les plus simples pour finir par les plus compliqués. Comme ça, c'est quand même plus pratique. On arrive quand même à peu près à voir que c'est un gentil papillon et pas une blatte qui va nous manger notre riz. Et on a l'information importante en premier, donc dans ces clés de détermination.
Hugo. Mais alors là, on n'est toujours pas au fameux arbre dont on a parlé là à l'instant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... dans les clés de détermination, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de racine. Voilà. C'est un peu une arborescence comme ça qui part de...
Alors, il n'y a pas de racine dans un point de vue évolutif. Là, il n'y a pas du tout, effectivement, ouais. d'idée d'évolution. La racine vue comme un ancêtre, ça, il n'y a pas. Par contre, quand on regarde un arbre, voilà, le platane qui est en bas de chez vous, bah, finalement, cet arbre, c'est juste un objet où en bas, il y a un point qui est tout seul, qu'on va appeler la racine. Au-dessus, il y a des points qui vont partir d'une seule branche et qui vont en donner deux. Nous, on va les appeler les nœuds. Et puis, tout à la fin, il y a des objets qu'on va appeler les feuilles, qui sont un petit peu partout, il y en a beaucoup. Bah, en fait, c'est ça qu'on va appeler des arbres. Donc, eux, de ce point de vue-là, bah, y a effectivement, au début de l'arbre, un point qui est tout seul, qui est la racine. Et puis, il y a un trait qui va en partir, qu'on va appeler une branche. Puis, il y a un nœud. Et puis, après, il y a deux branches qui vont en partir, etc. Donc, on appelle quand même ça un arbre, mais alors c'est vraiment un arbre très métaphorique, très imagé.
Qui n'a pas d'équivalent dans la nature.
J'aimerais pas en voir un.
Et donc, vous parliez juste de racines et de nœuds. Oui. Qu'est-ce que ça correspond à quoi, par exemple? La racine, c'est l'ancêtre commun à tous les êtres vivants qui existent?
Alors, ça va dépendre en fait des écoles de pensée. Quand on fait un arbre, on peut mettre à peu près ce qu'on veut à la racine, on va y mettre beaucoup de choses. À la Renaissance, c'est juste le groupe qu'on classe. Par exemple, si on va classer les mammifères, eh bien, la racine, ce sera les mammifères. Et puis, d'un côté, ce sera les mammifères qui nagent, puis de l'autre, les mammifères qui marchent. Et dans les mammifères qui marchent, d'un côté, ce sera les mammifères qui marchent debout, de l'autre, les mammifères
D'accord,
qui marchent à quatre
pattes. Il y a plusieurs arbres, en fait. Voilà. C'est pas, on n'inclut pas tous les êtres vivants sur un même arbre.
Moi, j'en ai pas trouvé la naissance. Non, ça va vraiment être des arbres très, très partiels. Donc, ça, c'est une première manière de faire des arbres. On va avoir aussi d'autres arbres, un petit peu plus tard, on est vraiment au siècle des Lumières, qui ne parlent pas non plus d'évolution. C'est simplement que pendant le siècle des Lumières, un petit peu la Renaissance, on se demande si le vivant il est continu ou discontinu. Alors là aussi, c'est un peu barbare, mais c'est de dire, finalement, tous les jours, on découvre des nouvelles espèces, et on se demande si, un petit peu comme un arc-en-ciel, on ne pourrait pas relier les espèces les unes à côté des autres, de sorte qu'elles se ressemblent en continu, quoi. L'homme ressemble à un chimpanzé, qui ressemble lui à un orang-outan, qui, etc. Vraiment comme un joli collier de perles. Mais alors, on trouve tellement de nouvelles espèces qu'on voit que la continuité, ça marche pas tellement. Il y a un petit peu de discontinuité là-dedans. Par exemple, au bout d'un moment, ça forme des gros paquets d'espèces qui n'ont aucun point commun avec un autre gros paquet d'espèces. Par exemple, les mammifères et les oiseaux. On n'arrive plus à les relier entre eux et on ne trouve pas de maillon intermédiaire. Et l'arbre, c'est quand même très pratique parce que si on regarde pas toujours le platane en bas de chez soi, le tronc, les branches, etc., tout ça, c'est bien relié entre eux, c'est continu. Mais les feuilles, entre elles, elles sont clairement séparées, elles sont discontinues. Et là, ça va servir à plusieurs auteurs qui ne sont pas forcément très très connus. Dedans, il y a Augustin Augier qui va dessiner un magnifique chêne pour classer les plantes. Il va y avoir un auteur Pallas qui va décrire un arbre en latin, c'est à la fois passionnant et immonde à traduire, mais donc pour relier les espèces, mais on n'est vraiment pas du tout dans une notion d'évolution. Et en même temps, on va voir un auteur, alors, vous c'est Aristote, moi c'est plutôt Buffon, mon préféré.
Chacun son truc.
Chacun le sien. Alors Buffon, c'est un type quand même qui est extraordinaire. Il va naître en 1707, il va faire un petit peu de tout, il va faire des maths, il va faire du droit, il va faire des forges chez lui, enfin il va faire plein de choses.
Des forges ?
Ah oui, chez lui, en Bourgogne, il a des forges, il va fusionner du métal. Les grilles du jardin des plantes, certaines sont faites avec les forges de Buffon, donc voilà. C'est vraiment un touche-à-tout de génie. Et ce type-là, il va aussi avoir une des premières théories sur les transformations des espèces. Alors, on ne parle pas encore d'évolution, mais pour lui, quand même, si on dessine un arbre, eh ben, peut-être que ça va s'apparenter à un arbre généalogique. Pour Buffon, en fait, il y a une idée de dégénération. Alors, la dégénération, c'est pas l'idée qu'on en a maintenant, c'est simplement de se transformer au fil du temps. Alors, comment ça se fait? Prenez par exemple le cheval, l'âne et le zèbre. Buffon se pose plein de questions, il se dit « c'est drôle, ces trois animaux se ressemblent étrangement ». Ils arrivent à faire des bébés ensemble, mais les bébés sont stériles. Il se passe peut-être quelque chose. Et il va réfléchir, il va se dire, si ça se trouve, à l'origine, il n'y avait que des chevaux. Et en fait, comment ça se fait que les bébés ressemblent à leurs parents? C'est quand même une grande question à l'époque. Il dit, à l'intérieur du ventre de la maman, il y aura une sorte de moule qui va être rempli pendant la reproduction. Et ce moule, il va être à l'image des parents. Et quand le bébé naîtra, il sera à l'image des parents. Mais de temps en temps, ce moule, il peut se casser, s'abîmer un petit peu. Et l'animal qui sortira, il ne sera plus comme le genre initial, donc il sera dégénéré. Et par exemple, pour le cheval, ça pourra donner un âne ou ça pourra donner un zèbre.
Il y a une idée de dégradation quand même.
Il y a une idée de dégradation qui est assez forte. En fait, l'âne et le zèbre sont un petit peu moins parfaits que le cheval, qui est vraiment l'animal le plus parfait des trois pour Buffon. Et Buffon, c'est ça qui est très très fort aussi, c'est qu'il va expérimenter. Il va se demander si le chien, le renard, le loup ne feraient pas aussi partie d'une même famille. Donc dans son parc en Bourgogne, il va prendre des chiens, des renards, des loups, il va essayer de les faire se reproduire ensemble. Alors il note dans son histoire naturelle, c'est sa grande œuvre, Il dit, bah, c'est drôle, ça marche pas, mais peut-être que la chienne, elle est pas amoureuse du renard, enfin, il se passe quelque chose. Mais ils veulent pas faire de bébé ensemble. Mais vraiment, il va expérimenter, c'est quelque chose de très très fort. Donc, c'est vraiment le premier auteur d'arbres généalogiques. Mais alors, attention, on est aussi dans une généalogie très très localisée. Vraiment, même dans ses idées les plus folles, pour Buffon, il n'y a pas d'ancêtre commun à tous les animaux, on ne vient pas d'une seule espèce qui aurait dégénéré. Il y aurait peut-être éventuellement quelques ancêtres communs à tous les animaux à quatre pattes, mais c'est vraiment dans ses théories les plus folles.
Il a vraiment dessiné des arbres, Buffon ? On peut les retrouver
Alors, ces arbres du cheval ou les autres...
Oui, des arbres en bronze.
Je ne les ai pas retrouvés en bronze, il faudrait creuser et faire quelque chose. Ça a peut-être fondu pour faire les grilles du jardin des plantes. Non, alors ces arbres-là, du cheval ou des oiseaux, il ne les dessine pas. Il ne fait que les décrire. Par contre, il va bien parler de souches, de branches, de feuilles. Il va dessiner un autre arbre qui est très intéressant, c'est un arbre des chiens. C'est une deuxième idée de Buffon, c'est que bon, on peut aussi se transformer selon l'endroit où on habite, mais ces transformations sont réversibles. Tenez, un bonsaï par exemple, c'est un arbre normal, sauf qu'à force de lui couper les racines et les branches, ben, il est devenu tout petit. Mais si ce bonsaï, on arrive à lui faire avoir des fruits, et puis à planter les graines de ses fruits, ben, ça donnera un arbre tout à fait normal.
Donc c'est-à-dire qu'on pourrait changer, selon Buffon, on pourrait imaginer des espèces qui se transforment en d'autres espèces de leur vivant.
Alors... Pas qu'ils transforment en d'autres espèces. Par exemple, chez les chiens, bah, si on a toute cette variété de chiens, bien c'est parce qu'à l'origine, il n'y avait qu'un seul chien. Puis il y en a qu'on a emmené en Angleterre, d'autres en Italie, d'autres en Afrique. Et puis, bah, à cause de la chaleur, des bons ou mauvais traitements, de la nourriture, ils sont un petit peu transformés.
D'accord, mais si on les ramenait en France, c'est un effet du contexte.
Voilà, c'est ça. Mais si on les ramenait en France, eh bien, ils changeraient encore de forme, parce qu'ils ne seraient encore pas dans les mêmes conditions. Et surtout, ils disent, si on les relâchait dans un désert ou très très loin des hommes, eh bien, au fil des générations, ils reprendraient l'aspect des premiers chiens, des chiens sauvages.
Et donc, du coup, ça, tout ça a changé à un moment donné, parce qu'on a quitté toute cette vision des faits, justement, du contexte, de perfection, de dégénérescence, etc.
Alors, dégénération, en fait, ouais, c'est vraiment Buffon et puis quelques-uns de ses disciples. On est en 1766, là, on va faire un petit bond dans le temps.
Parce qu'à l'époque aussi, non mais il y a aussi le célèbre Linné qui est contemporain de Buffon. Il a aussi son système de classification bon, qui sera très connu et repris après. Est-ce que lui, Linné, a son arbre aussi comme Buffon ?
Alors Linné va faire des boîtes que dans un de ses ouvrages, il va dans un petit graffiti de bord de page dessiné sous forme d'un arbre. En fait, quand on fait un arbre généalogique, les arbres de Linné sont pas généalogiques, mais pour donner l'image, on fait des boîtes. En fait, c'est exactement la même chose. Par exemple. Bah, vous prenez vous, votre frère, votre sœur, votre papa, votre maman, eh bien, ça va être un petit bout d'arbre généalogique. Mais on peut aussi dire que c'est une boîte. Et puis on rajoute papy, mamie, cousin, cousine, ça va être un bout un peu plus grand d'arbre généalogique, mais on peut aussi dire que c'est une boîte un peu plus grande. Donc en fait, c'est exactement la même chose. Et pour Linné, ces boîtes peuvent se représenter, en tout cas une fois, sous forme d'arbre. Mais pour Linné, c'est vraiment la classification en boîte qui compte. Et c'est les divisions. Autant Buffon va rassembler les espèces éparses parce qu'elles ont en commun, autant Linné va faire des grandes, grandes divisions. Alors il va commencer par les plantes et s'intéresser aux organes reproducteurs des plantes. Clairement, il va séparer d'un côté les végétaux qui cachent leurs organes reproducteurs, qu'on va appeler les cryptogames, c'est les fougères, c'est les champignons. Enfin, si un jour vous voyez une fleur sur une fougère ou un champignon, il faut appeler le muséum très très vite, vous aurez fait la découverte du siècle. Et d'un autre côté...
Alors, vous nous appelez, nous, à Radio Campus,
voilà
nous,
aussi.
France Figure. On va avoir l'exclusivité, absolument.
Et d'un autre côté, il va mettre les fleurs et les palmiers qui vont, eux, montrer leurs organes reproducteurs. Ensuite, ces fameuses plantes qui les montrent, les phanérogames, il va les classer suivant le nombre d'organes mâles, le nombre d'organes femelles, etc. Donc il va faire toute une classification. Pour l'anecdote, j'ai entendu dire qu'il avait essayé de faire la même chose pour les animaux un petit peu plus tard, mais qu'on avait beaucoup rigolé. Donc voilà pour Linné. En fait, Linné et Buffon sont nés la même année. Ils se feront la guerre toute leur vie. Ces deux très très fortes personnalités déjà, et puis surtout ils ont deux manières de voir le monde et de classer très différentes.
Linné qui est d'ailleurs à l'origine des classifications actuelles, genre, espèce, etc.
Voilà, en fait, ouais. Des grands noms qu'on va donner aux boîtes, oui.
Et alors après, il y a eu Lamarck.
Tout à fait, Lamarck, on va arriver en 1809, là on a fait un petit bond dans le temps. Alors Lamarck, pour l'anecdote, il était professeur particulier, si vous voulez, du fils de Buffon. Donc ils se sont quand même rencontrés. Ouais. Mais Lamarck, il ne va pas avoir beaucoup de chance dans sa vie, puisqu'il va travailler pour Cuvier, qui est un très très grand paléontologue, mais qui est surtout fixiste. Il ne croit pas en l'évolution des espèces. Lamarck est quelqu'un de pas très très influent, mais qui est convaincu de l'évolution des espèces. Et Lamarck, ça va être l'auteur de la première vraie théorie de l'évolution, c'est-à-dire du fait que toutes les espèces se transforment les unes en les autres, plus particulièrement les animaux d'un côté, les plantes de l'autre. Alors Lamarck, il va partir toujours de cette idée de comment ça se fait que les bébés y naissent. Alors, les connaissances ont quand même progressé depuis Buffon. On sait que le moule, ça marche pas vraiment. Alors pour la marque, qu'est-ce qui se passe ? Il veut dire dans le ventre de la maman ou dans l'œuf, ce qui va se former en premier, ça va être le cœur. Et puis le sang. Et le cœur va commencer à propulser le sang. Mais le sang, finalement, en coagulant, il va former des premiers organes. Alors ça, c'est vraiment la théorie de la formation des bébés pour la marque. Et pour expliquer son évolution, il se base sur une autre expérience qui a eu lieu du temps de Voltaire, de Buffon. C'est la génération spontanée. En fait, on a pris des récipients en verre, on les a passés à la flamme, et on a dit, tout ce qui était vivant là-dedans, c'est mort. Et puis on a attendu 2 semaines, 1 mois, et on a vu au microscope qu'en fait, il y avait des êtres vivants qui étaient là. Alors maintenant, on sait qu'on avait juste passé bien désinfecté le récipient, mais à l'époque, on pensait qu'il pouvait apparaître des petits vers, des petites larves, des petits êtres formés d'une seule cellule, comme ça, spontanément. On pensait vraiment ça. Et pour la marque, ça se passe à chaque seconde, ça. Ces petits êtres, ils vont être très très simples, ils vont rien pouvoir faire d'autre que de se reproduire. Mais en se reproduisant, au fil des générations, eh bien, le cœur de leur bébé, peut-être il pourra propulser le sang un tout petit peu plus loin que celui de ses parents. Donc il pourra avoir des organes peut-être un tout petit peu plus complexes. Et pour Lamarck, comme pour Buffon, en fait la Terre n'a pas 6000 ans, elle a, pour Buffon, 75 millions d'années, pour Lamarck, elle a peut-être même pas de début, en tout cas elle a plusieurs millions d'années. Donc ça va laisser le temps aux espèces finalement d'évoluer, et pour Lamarck, évoluer, c'est comme le bon vin, c'est se bonifier avec le temps, c'est devenir un petit peu plus complexe, un petit peu meilleur. Alors on va devenir insecte, et puis après on va devenir mollusque, et puis après on va devenir poisson, etc., etc. Pour la marque, ce qu'il y a de plus perfectionné en ce moment, c'est les primates, les singes. Ils ne parlent pas de l'homme, mais on sent bien que l'homme est le plus perfectionné des singes. Mais l'homme n'est qu'une étape dans l'évolution, et au fil des générations, il est amené à se transformer. Alors la deuxième question de la marque, c'est de savoir finalement pourquoi est-ce que nos organes sont adaptés à notre environnement. Alors il va donner un exemple que je trouve assez drôle, c'est avec l'écureuil volant. Il dit pourquoi est-ce que l'écureuil volant vole ? Eh bien, c'est que à force de génération où l'écureuil normal se jette du haut des branches, eh bien, il va se mettre à voler. Et là, il faut imaginer le petit écureuil qui dit « Non, mais je fais ça pour la postérité, mais...
» Donc, c'est pour mes arrières, voilà. Petits enfants, ils voleront.
En fait, c'est une idée qu'on a, on sait qu'elle est fausse, mais de temps en temps, on l'entend encore à la radio, quand on dit « À force de ne pas se servir de notre appendice ou de nos dents de sagesse, ils vont disparaître. » En fait, on sait que pas du tout. C'est une idée de la marque, ça.
Ça, c'est l'idée qu'on peut transmettre nos caractères de notre vivant, les caractères acquis.
Tout à fait.
Et ça, ça a été remis en cause, bien sûr, par la suite.
Alors, non seulement les caractères acquis, mais à la limite, jusqu'au début du XXe siècle, on ne fait pas tellement la différence entre les caractères innés et acquis, mais surtout qu'à force de faire quelque chose, on le transmet à nos descendants. Par exemple, à force de couper la queue à des chiens, on aura des chiens sans queue.
Ça, quelqu'un a essayé ou pas ?
Oui, je crois qu'ils ont essayé à la fin du XIXe siècle. Je crois qu'ils ont fait des expériences comme ça, et puis qu'ils ont vu que vraiment, ça ne marchait pas.
Mais on y revient, cela dit, un petit peu au caractère acquis, entre guillemets, avec l'épigénétique, etc. Donc, on ne ressuscite pas la marque. Mais,
non, c'est
on a fait
une
émission sur la biologie moléculaire, qui est disponible en podcast pour ceux qui veulent écouter.
Ouais, on est vraiment dans une autre forme d'hérédité. Voilà.
Donc après, la marque, il avait aussi son arbre, et on arrive...
Qui est très linéaire comme arbre.
Oui, c'est vraiment entre l'échelle et l'arbre.
Donc on arrive rapidement à Darwin, ensuite, au milieu du 19e siècle.
Tout à fait.
Darwin, qui révolutionne le vivant en établissant sa théorie de l'évolution. Et il a aussi son arbre propre, Darwin, avec une généalogie, ce qui n'existait pas avant.
Tout à fait. Alors Darwin, là, il avait vraiment trouvé la clé de l'énigme sur comment classer le vivant. Pour lui, toute classification est généalogique. Et en fait, même la généalogie, c'est l'indice que cherchaient tous les biologistes depuis des années. Finalement, pourquoi est-ce que certaines espèces se ressemblent ? Pourquoi est-ce que d'autres ne leur ressemblent pas, etc. C'est finalement pour Darwin, parce qu'on a entre espèces des ancêtres communs, et que ces ancêtres communs vont suivre, ensuite se transformer de manière différente. Et donc l'arbre de Darwin, c'est le premier à être strictement généalogique. Alors c'est la seule figure qui va publier dans son Origine des espèces, c'est... Un peu pauvre en figure, mais c'est une figure qui est très 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 intéressante. Elle est strictement théorique, ça veut dire qu'il ne va pas dire « ici je vais mettre l'homme, ici je vais mettre le chimpanzé, ici je vais mettre la carpe ou le sélacanthe ». C'est vraiment un schéma strictement théorique, mais il dit « si ma théorie est bonne, on doit classer les espèces vraiment de cette manière-là ». Et le problème de Darwin, c'est qu'il ne va pas dire comment on va s'y prendre pour retrouver cette généalogie. Donc les chercheurs vont être embêtés pendant des années. Alors la deuxième grande idée de Darwin, qui lui, attention, non plus, il ne voit pas la différence entre les caractères innés et acquis, c'est simplement qu'on ne peut pas hériter de quelque chose qu'on a acquis par l'effort. Par exemple, à force de voler, à force de sauter des branches, et ben les écureuils volants jamais ne transmettront leur membrane sous les bras à leurs descendants. À force de faire des bonsaïs, ben les arbres qui en sont issus ne deviendront jamais plus petits. Par contre, pour Darwin, les descendants ne ressemblent jamais exactement à leurs parents. Et parmi ces descendants, certains, par hasard, auront des caractéristiques qui leur permettront d'avoir un petit peu plus d'enfants que les autres. Généralement, c'est parce qu'ils ont de la chance. Mais il y a aussi des conditions qui font que il n'y a pas que la chance qui joue. Et en fait, il va développer, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle, il va développer 5 modalités de sélection naturelle dans l'ascendance de l'homme. La première, c'est la plus connue, c'est la loi du plus fort, du plus rapide, du plus intelligent, du plus tout ce que vous voulez. Si vous arrivez plus facilement que les autres à fuir votre prédateur et à manger ou à trouver de quoi vous reproduire, vous reproduisez plus facilement. Mais il en trouve aussi 4 autres. La deuxième, c'est le mimétisme. Alors là, avec les insectes, on en voit plein. Si vous arrivez plus facilement que les autres à vous cacher, forcément, vous vous faites moins manger et vous avez plus de petits. La troisième et la quatrième, elles se ressemblent, c'est l'entraide. Alors l'entraide au sein d'une même espèce, chez nous humains, on connaît très bien ça. Ou alors l'entraide au sein d'espèces différentes. Et nous tous les animaux, même les plantes, on est tous symbiotiques de petites bactéries qui nous permettent de bouger, de nous nourrir. On a même des centaines d'espèces de bactéries dans notre estomac. Sans elles, on mourrait, on n'arriverait pas à digérer. Et sans nous, elles mourraient. Donc vraiment l'entraide entre espèces différentes. Et la dernière, alors c'est plutôt nous filles qui l'apprécions, c'est la loi du plus mignon. S'il se trouve qu'un reproducteur, souvent un mâle, est plus joli, plus mignon, plus attirant que les autres, on va préférer faire des bébés avec lui et il va avoir plus de facilité à transmettre ses gènes. Donc voilà la sélection naturelle de Darwin.
Et donc voilà, encore un arbre de plus dans l'histoire. Il y en a d'autres après. Parce que le grand tournant, en fait, après Darwin, c'est quoi ? On est au XXe siècle, c'est l'apparition de la biologie moléculaire et surtout de l'informatique.
Alors oui, juste après Darwin, c'est vrai, entre Darwin et le XXe siècle, oui. On avait essayé de reconstituer sa généalogie, mais alors on ne sait pas du tout comment s'y prendre. Il y en a qui vont creuser dans le sol, trouver des fossiles et faire des généalogies de fossiles. Lui, ce sera le grand-père, lui, ce sera le papa, lui, ce sera le cousin. Il y en a d'autres, comme Haeckel, qui vont faire des grands groupes. Haeckel, il va avoir une grande influence sur le XXe siècle. Ils vont faire des grands groupes de ce qui se ressemble, de grands plans d'organisation, comme il appelle. Il va y avoir la forme poisson, la forme reptile, la forme oiseau. Et il va faire se suivre les groupes les uns par rapport aux autres. Alors, il fait un arbre d'anthropogénie absolument extraordinaire. C'est un grand chêne, très très bien dessiné. C'est un dessinateur incroyable. En bas, il y a les bactéries. Et puis tout en haut, il y a l'homme qui est sur son petit piédestal, entouré un petit peu plus bas de l'orang-outan et du chimpanzé. Mmh. C'est vraiment un arbre qui est tout à fait haeckelien. Et en fait, c'est une idée qui va, en plus de la biologie, qui va être suivie pendant tout le début du XXe siècle. C'est quelque chose que parfois on a même appris à l'école, que l'homme descend du singe qui descend des mammifères, des reptiles, etc. Donc ça c'est quelque chose qui va se poursuivre pendant tout le XXe siècle. L'arrivée de la génétique va finalement permettre de comprendre les mécanismes qui permettent d'élaborer l'arbre. Et enfin, on va avoir dans les années 1960 un autre tournant qui va être celui effectivement de l'informatique.
Voilà, c'est donc tournant majeur et c'est ce qui va permettre à tous les scientifiques d'utiliser une seule méthode de classification.
Tout à fait. En fait, ce qui va être important dans l'informatique, ça va être de ce qu'on appelle rationaliser les caractères. Alors, c'est un gros mot pour dire qu'on décrit ce qu'on classe. Quand on va dire les mammifères, ils ont tous des poils, on va décrire ce que c'est qu'un poil. Et on va faire des grands tableaux où, d'un côté, dans les lignes, on va mettre les animaux ou les espèces qu'on classe. Et dans les colonnes, c'est toutes les questions qu'on leur pose. Est-ce que tu as des poils ? Est-ce que tu as des plumes ? Est-ce que tu as des os ? Etc. On va répondre par oui ou non. Et après, il va y avoir deux méthodes. Alors là, pareil, qui se sont opposées, qui s'opposent encore un petit peu maintenant. Il y a ceux qui vont dire, on va rassembler par ceux qui ont le plus de points communs. Rappelez-vous, il y a quelques années, on a décodé le génome de l'homme, du chimpanzé, du rat. Et on a dit, l'homme et le chimpanzé ont, 99% de gènes en commun. L'homme et le rat, c'est 85%. Eh bien, ça, c'est la première méthode. On va avoir un pourcentage, mais on ne va pas dire ce qu'on a en commun. La deuxième, qui est vraiment la méthode actuelle, qui est celle dont on a parlé au début de cette émission, c'est de dire quels sont ces points communs et de classer uniquement par points communs originaux. C'est un petit peu plus long à calculer, mais c'est vraiment la méthode maintenant qui domine, ce qu'on appelle la cladistique.
On est ensemble jusqu'à 21h, on continue à parler de l'évolution et de la classification des espèces. Thank you. C'était Never Stop du groupe The Bad Plus.
Tous les mois, le jeudi à 20h, La Puce à l'oreille, l'émission scientifique de Radio Campus Paris.
Donc après mon magnifique accent, anglais, on va maintenant passer à la chronique de Sylvain qui va nous parler d'une dent. Et oui, on ne se refuse de rien à Radio Campus, on va dans des sujets un peu tendus comme ça. Et donc Sylvain, tu nous parles aujourd'hui des origines de l'homme avec une découverte faite dans des conditions surprenantes.
Oui Thibaut, on imagine volontiers le paléo-anthropologue grattoir à la main, découvrant des indices majeurs sur les origines de l'humanité sous le soleil ardent des vallées africaines. Oh. Mais il arrive que les collections ombragées des musées archéologiques recèlent de trouvailles tout aussi inattendues. C'est ce qui est arrivé à Isabelle Crèvecœur, une jeune chercheuse qui a publié sa découverte au début de l'année dans la revue PLOS ONE. Elle a retrouvé un fossile préhumain vieux de 2 millions d'années dans un musée en Belgique.
En Belgique ? Et donc c'est quoi ? C'est une frite fossilisée ?
Non, c'est une dent. C'est une molaire supérieure plus précisément. Sauf qu'elle ne provient pas de Belgique mais d'Afrique centrale. Alors l'histoire commence dans les années 50, lorsque le géologue Jean de Hinzelin se rend au Congo, qui appartient alors à la Belgique, pour fouiller le site d'Ishango. Là-bas, il retrouve plus d'une centaine d'ossements qui datent d'il y a 20 000 ans, c'est-à-dire à la fin de l'âge de pierre. À cette date, le site était déjà peuplé d'Homo sapiens, comme vous et moi. Mais au milieu de tous ces fossiles, il trouve aussi cette fameuse dent, qui passe un peu inaperçue. Du coup, elle part avec tous les autres à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, où elle va dormir jusqu'en 2008.
Donc jusqu'à ce que la chercheuse en question la retrouve.
Ouais, tout à fait. En 2008, Isabelle Crèvecœur arrive dans le musée. Elle vient de finir sa thèse et son rôle est de dépoussiérer la collection d'Ishango. Cette dent attire son attention parce qu'elle mesure 14 mm de large et presque autant de haut. C'est 2 mm de plus que les dents qui nous servent à mastiquer aujourd'hui. Alors à qui appartient-elle ? À un Homo sapiens d'il y a 20 000 ans qui avait les molaires particulièrement développées ou à un individu d'une espèce plus ancienne ? Donc l'enquête va durer plus de 5 ans. La dent est d'abord scannée jusque dans ses entrailles avec des rayons X, puis reconstituée en 3 dimensions sur ordinateur. Mais le bout de mandibule est coriace et refuse de se laisser percer si simplement à jour. Donc la chercheuse n'en déborde pas, pour autant elle se plonge dans les archives des années 50, déchiffrant mot après mot les carnets de Jean de Hinzelin pour déterminer dans quelle couche sédimentaire la dent a été retrouvée, afin de savoir si elle ne provient pas, par hasard, d'une couche plus vieille que 20 000 ans.
Alors, au bout de cette enquête, quel a été le verdict final ?
Eh bien, cette dent est celle d'un homininé de 2 millions d'années. Alors, puisqu'on parle de classification, je précise que les homininés sont une sous-famille de la famille des hominidés, qui appartiennent, eux, à la super-famille des hominoïdés, qui trouvent leur place dans l'ordre des primates.
Donc ça, c'est pour gagner beaucoup de points au Scrabble, ou
exactement,
alors pour s'amuser à faire des exercices d'orthophonie.
Wow. Okay, mais bon, plus simplement, en fait, les homininés regroupent tous les genres apparus après la séparation entre la branche de l'homme et celle des chimpanzés, nos plus proches cousins, il y a plus de 6 millions d'années. Et donc parmi ces genres, il y a les australopithèques, les paranthropes et les homos comme nous. Et ces genres regroupent beaucoup d'espèces, alors Australopithecus afarensis, Paranthropus robustus, Homo habilis, Homo erectus et plein d'autres sur lesquels les scientifiques s'écharpent encore. Mais bon, pour revenir à la dent, on hésite pour savoir dans quel genre la classer. Mais il est probable que ce soit un homo quelque chose. Et dans ce cas, ce serait le plus vieux représentant de notre genre qu'on retrouve en Afrique centrale, à l'ouest du Rift, cette faille géologique qui coupe en deux la corne de l'Afrique. Bon bref, cette dent, c'est une nouvelle pièce du puzzle buissonnant de nos origines. Et pour en savoir plus, je pense que les chercheurs devront cette fois-ci trouver les indices sur le terrain plutôt que dans un musée.
Merci Sylvain, une dent qui va encore receler beaucoup d'enquêtes. C'est incroyable, quand on pense que des chercheurs vont passer 5 ans à essayer de comprendre d'où vient une dent parce qu'elle fait 2 mm de haut, il faut avoir quand même la vocation, et nous, on est contents à Radio Campus de pouvoir traiter un peu de ces vocations scientifiques. À propos de vocations scientifiques, Marie...
Quelle transition.
J'ai encore mieux comme transition, parce que tout comme cette chère Isabelle Crèvecœur dont on a parlé, vous avez votre thèse, c'est aussi de dépoussiérer un petit peu la classification, et donc vous faites en fait de la classification.
Tout à fait. Ah,
ouais. Si j'ai envie de dire ça, si on était des hipsters à campus, on dirait que c'est de la méta-classification. Mais évidemment, on n'est pas des hipsters à campus, on est des méta-hipsters. Mais ça, c'est autre chose. Mais alors, racontez-nous un peu ça. Comment ça se passe ? Vous faites des classements ?
Voilà, tout à fait. En fait... je vais travailler sur les arbres du vivant. Donc bah là, on a vu les arbres, ça fait à peu près 500 ans qu'on en dessine. J'ai juste travaillé sur les arbres qu'on dessine, sinon on pourrait se rappeler dans une soixantaine d'années.
Et, on le fera.
On pourra le faire, je vous tiendrai au courant. Et donc depuis à peu près 500 ans, on va dessiner des arbres pour classer des espèces. Donc bah ça, on vient de le voir quand même, les arbres, ils vont être très 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 différents, ils vont dire plein de choses. Alors nous, en histoire des sciences, eh bien, a priori, on peut faire des grands groupes. On peut reconnaître, par exemple, les darwiniens, les lamarckiens, les buffoniens. Il y a même des écoles de pensée qui se sont définies toutes seules, surtout quand elles s'écharpent les unes les autres. Elles vont dire, ah ben, moi, je me définis, par exemple, je suis un gradiste et je suis contre toi qui es un cladiste. Alors souvent, il y a des istes un petit peu partout. Mais le problème, quand on fait ça, eh bien, c'est qu'on ne cherche pas quels sont les points communs qui vont soutenir cette école de pensée. Finalement, on va faire un petit peu comme nos poissons. On va dire, bah ça se ressemble, donc ça va aller ensemble. Mais on va pas chercher à voir si ce qui fait qu'on se ressemble, bah c'est quelque chose d'original ou pas. Donc ça nous embêtait beaucoup. Donc finalement, on va classer nos arbres du vivant, mais en utilisant les méthodes qu'on utilise aujourd'hui pour classer les espèces. Alors c'est quoi ces méthodes? C'est simplement toujours nos grands tableaux. Dans les lignes, on met normalement les espèces qu'on classe. Et ben moi, pour chaque ligne, je vais mettre une image d'arbre du vivant. J'en ai trouvé à peu près 250. Puis dans chaque colonne, eh bien, on va aussi mettre des questions. Mais là, je ne vais pas demander à mes arbres s'ils ont des poils, des plumes ou des os. Je vais leur demander, qu'est-ce que tu dis quand tu fais une racine? Qu'est-ce que tu dis quand tu fais des branches? Qu'est-ce que tu dis quand tu dessines un arbre? Finalement, je vais leur poser à peu près 150 questions, souvent très 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 détaillées. Quelle est la place de l'homme? Est-ce que l'arbre va véhiculer une notion de temps dans ses racines, dans ses branches, dans ses feuilles, etc.? Et puis tout ça, eh bien, on va le faire calculer par un ordinateur. Alors, attention, l'ordinateur, il ne fait pas le travail à ma place. Il faut vraiment le considérer comme une machine à calculer géante. Et on va reprendre un petit peu notre principe de parcimonie du début. Rappelez-vous l'histoire de la chauve-souris. Est-ce que c'est un oiseau ou un mammifère? On va calculer le nombre de points communs originaux avec un groupe et avec l'autre. Elle en a une vingtaine avec le mammifère, un seul avec les oiseaux. Eh bien, nous, on va faire exactement la même chose. L'ordinateur, il va calculer l'arbre le plus parcimonieux, c'est-à-dire l'arbre où il y aura le moins d'étapes dans nos groupes. Par exemple, pour faire l'analogie avec nos mammifères, c'est là où les groupes seront les plus cohérents entre eux. On ne va pas faire un groupe avec les animaux qui ont des poils et qui allaitent leurs petits, et puis d'un autre côté, un autre groupe très très éloigné avec des animaux qui ont des poils et qui allaitent leurs petits. Là, on va faire strictement la même chose. On va maximiser la cohérence des partages, comme on dit entre nous. Quoi.
Mais alors, ça doit être... Ouais. Pardon, excuse-moi.
Vas-y, Hugo.
Non, c'est que ça me... Bon, des arbres, vous êtes allé en chercher un peu partout, et puis surtout des arbres qui remontent à très très loin. Je crois que les premiers, comme on l'a dit tout à l'heure, datent de la Renaissance.
Tout à fait.
Donc les premiers arbres que vous étudiez là dans votre thèse, ça commence dans le 16e siècle à peu près.
Oui, on est en 1555, c'est Konrad Gessner, qui est un naturaliste vraiment du milieu du 16e siècle. Et on va en trouver assez rapidement dans tout le XVIIe siècle, des arbres comme ça. En fait, il y en a plein. Alors pour ça, c'est un travail un petit peu d'archives. Alors heureusement, dans la plupart des universités ou alors par la Bibliothèque nationale de France, on va avoir une numérisation de documents anciens, ce qui permet de travailler finalement sans bouger de son ordinateur. Ça consiste à télécharger des centaines, des milliers de livres et puis de voir dans leurs pages si à un moment ou à un autre on dessine des arbres.
Ils ont tous été numérisés ces arbres, il n'y a pas des arbres par exemple que vous êtes obligé d'aller chercher dans les archives parce qu'ils n'existent pas, ils n'ont pas été numérisés, référencés.
Alors on pourrait, mais j'ai choisi aussi, attention, comme une thèse c'est que 3 ans et c'est pas 60, je me suis contentée de travailler sur les arbres, alors d'une part qui sont dessinés et d'autre part qui ont été publiés. Parce que si on regarde dans la correspondance privée des auteurs, là aussi on va trouver plein d'arbres. Darwin lui-même, dans ses lettres, a dessiné un arbre des mammifères qui est extraordinaire. Mais oui, mais c'est ses lettres, j'ai pas le droit de le prendre. Donc, et là par contre, dans la numérisation de documents anciens, on trouve quand même énormément de choses. On va même dire que j'ai trouvé beaucoup trop de choses au niveau des arbres de la Renaissance. Beaucoup d'auteurs en ont fait.
Alors, bien sûr, on rappelle, l'objectif, c'est pas, tout comme c'est la même chose pour les arbres de classification des espèces, c'est pas de dire quel est celui qui est meilleur que les autres, le plus parfait ou le plus dégénéré, pour revenir à ce que disait avant. Mais alors du coup, à quoi, alors c'est une question que normalement on ne doit pas poser à un thésard, mais à quoi ça va servir de...
Il n'y a pas de problème pour me la poser, en fait ça va servir à plein de choses. Alors déjà pour rester dans notre tout petit...
Est-ce que ça va changer par exemple, si vous arrivez à définir certains... type de regroupement d'arbres, est-ce que ça va pouvoir avoir un impact sur la façon dont on conçoit les arbres aujourd'hui ou dans l'avenir ?
Alors oui, c'est un des buts que ça peut avoir. Ouais. Le premier but, ça va être déjà de faire de l'histoire des sciences. Finalement, qu'est-ce qu'on va voir dans cet arbre ? Attention, là, c'est pas du tout un arbre de l'évolution que je fais. C'est pas un arbre généalogique, c'est D'accord. juste un arbre classificatoire. Mais déjà, ça, c'est intéressant parce qu'on va voir des fois des paquets d'idées qui vont se rassembler, qui vont être de la même époque. Et puis après, bah, ça va s'arrêter. Donc ça, je l'interprète comme, bon, on a essayé cette idée-là, mais ça ne marche pas. Mmh. Donc on arrête, par exemple, les arbres de Buffon ou les arbres, les clés de la Renaissance. Et puis, il va y avoir d'autres grands groupes qui, eux, vont être beaucoup, beaucoup plus gros et qui vont regrouper des époques différentes. Et là, on est vraiment dans l'idée en train de se faire. C'est la marque, surtout, Darwin, Haeckel et puis les auteurs plus contemporains. C'est-à-dire qu'on tient quelque chose, mais on ne sait pas trop... On travaille dessus, on ne sait pas trop encore comment s'y prendre. Donc ça, on est vraiment dans l'histoire des idées pures. Alors, ça peut aussi permettre d'éclairer les termes du débat. Par exemple, en 1970, alors, il y a eu une bataille féroce entre deux chercheurs, ou plutôt deux grands groupes de chercheurs. Les gradistes, c'est l'homme descend du singe qui descend des reptiles, par exemple, et les cladistes, qui est la méthode actuelle de classer le vivant. Alors, ça a été assez violent, quand même. Le journal dans lequel ils se battaient par article interposé a fini par dire, écoutez, on arrête là, moi, je publie plus rien. Mais ça permet de voir pourquoi ils se sont autant battus, c'est qu'ils vont tomber dans des groupes extrêmement proches. Mmh. Et plus on va être proche, alors ça c'est une autre hypothèse que je développe, plus on va devoir défendre son précaré, ou plutôt ce que notre méthode à nous apporte par rapport à celle du voisin proche. Et donc plus le combat potentiellement peut être violent. En revanche, des auteurs contemporains comme ces deux-là, qui étaient très proches, ne se sont pas forcément battus avec d'autres auteurs de la même époque, mais beaucoup, beaucoup plus éloignés. Et enfin, alors là, du point de vue de l'ouverture, montrer qui partage quoi avec qui de manière formelle, ça peut servir dans tous les domaines. Pensez par exemple à la littérature comparée. Quand j'étais en études de lettres, on me disait, bah, ça c'est du genre fantastique, puis ça c'est peut-être du pré-fantastique, c'est pas tout à fait du fantastique. Eh bien, avec une méthodologie comme ça, on peut déterminer ce que c'est que la littérature fantastique ou la science-fiction, et ce qui n'en est pas, qu'est-ce qui en est proche, qu'est-ce qui fait partie d'une boîte un petit peu plus grande, etc. Donc c'est finalement un sujet qui nous permet d'expliquer l'histoire des classifications arborescentes, mais qui potentiellement peut s'appliquer à plein d'autres domaines.
Oui, j'aimerais juste que vous disiez deux mots sur le gradisme, parce que c'est une école de pensée intéressante, et surtout elle a eu droit de cité, notamment dans l'éducation, il y a encore très peu de temps. Voilà, vous pouvez en dire deux mots ?
Oui, tout à fait. Alors le gradisme, c'est une des manières qu'on a eues, juste après Darwin, d'essayer de trouver la généalogie des espèces. Alors le gradisme, c'est simple. On ne va pas classer des espèces, mais on va classer des formes. Donc on va déterminer une forme poisson, une forme reptile, une forme oiseau. Tenez, peut-être pas les plus jeunes d'entre vous, mais peut-être vos parents ont appris ça à l'école, que l'homme descendait du singe, que les mammifères descendaient des reptiles. Finalement, comme si le groupe en soi... Eh bien, c'était un individu qui avait des bébés. Il y avait Monsieur Reptile qui a eu un bébé, qui est Monsieur Mammifère. Puis comme s'il y avait des groupes qui arrêtaient d'évoluer. Alors, ce qu'on sait maintenant, et puis on le sait depuis 150 ans à peu près, c'est que les oiseaux font partie des reptiles. Regardez un poulet, une patte de poulet, ça a des écailles soudées, comme sur le corps des serpents et des crocodiles. Mais alors, les gradistes vont dire, oui, mais les oiseaux, c'est des reptiles avec un grade au-dessus, c'est-à-dire des reptiles bien meilleurs que les autres reptiles. Nous, cladistes, on va dire, bah, regardez, le crocodile, il a un gésier comme les oiseaux, il va avoir des trous un petit peu partout dans les os de son crâne, exactement les mêmes que ceux des oiseaux. Un crocodile à l'intérieur, c'est fait comme un oiseau, donc on va le ranger dans la même boîte que les oiseaux, même si d'extérieur, un crocodile ressemble plus à un lézard qu'un oiseau. Le gradisme, lui, va dire, le crocodile ressemble beaucoup plus à un lézard qu'un oiseau, donc on va faire un grand groupe, puis on va chercher le chaînon manquant entre les reptiles et les oiseaux.
Et ça n'existe plus, hein. On ne peut plus voir dans les manuels scolaires justement ces lignées là de.
Ah non, 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 ça, ça y est, c'est fini. Maintenant, ouais. On enseigne la cladistique à l'école.
En français, en France bien. En tout cas.
Voilà.
Ouais. Mais écoutez, merci beaucoup Marie.
Merci à vous.
Pour avoir participé à l'émission. Merci Hugo.
Merci beaucoup.
Merci Sylvain.
Merci d'avoir fait une émission Histoire des sciences, ça me touche.
C'est toujours un plaisir. Et puis merci Laurent à la réalisation. On se retrouve dans 4 semaines le 19 juin et d'ici là n'oubliez pas de garder la puce à l'oreille. Bonne soirée.